Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Et ça se passe en Touraine. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio. Je vous propose de partir aujourd'hui à la rencontre d'un écrivain tourangeau, S.K. Durman, et de son premier roman, La forteresse perdue, dont l'intrigue se passe en 1920 dans le sud du Caucase. Serge, bonjour.
Bonjour l'IGAIA.
Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
En quelques mots, donc, ça va être assez rapide. Né à Paris, j'ai étudié le droit et j'ai eu le plaisir, lors de mes 17 ans, de me lancer dans l'écriture par défi contre ma prof de français qui doutait réellement de mes capacités d'écriture comme d'études supérieures. Sans quoi elle avait forcément tort, mais je pense que le challenge pour moi, c'est de prouver que je pouvais faire des choses positives dans ma vie.
Alors, 17 ans, c'était il y a un petit paquet d'années maintenant?
Ça a fait, oui, 43 ans.
Donc, ça veut dire que ton livre a été mûrement réfléchi, il a évolué?
Alors, il a beaucoup évolué parce que la première version, c'est une version papier, manuscrit, décrit au crayon, avec lequel je me suis déplacé chez l'oncle d'un camarade de classe qui s'appelait Monsieur Jean Aubert, qui était correcteur chez Lafon. Et comme il avait débarqué, il a dit « c'est pas possible, mon garçon, un manuscrit, ça se tape à la machine ». Donc cette première version, j'ai pris sur moi de la faire dactylographier. Et cette version dactylographiée, je l'ai ramenée à ce monsieur-là qui s'est dit « ce garçon est assez obstiné » et il s'est occupé de moi pour me guider dans mes premiers pas d'écrivain en herbe. Et après, évidemment, ça a été remanié plusieurs fois puisque cette version-là a été réécrite. Puis, quand j'ai eu 40 ans, on a refait une nouvelle version. Mon épouse, j'ai trouvé que l'intrigue était un peu inexistante ou un peu transparente. Donc on a mis en place une intrigue, un fil conducteur, un fils disparu, celui du personnage principal qui est Tigrane de Langon. Et à partir de là, on a créé une intrigue autour de la recherche d'un fils par son père et la recherche du père par son fils, puis aussi toute l'intrigue dans l'histoire qui commence par un crime dans la forteresse du personnage principal.
Alors parlons un petit peu de cette histoire justement. Donc tu l'as située en 1920. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte historique à cette période et dans cette région, puisque c'est une région que nous ne connaissons pas forcément beaucoup?
Tout à fait. 1901, pour les Français ou les Occidentaux, c'est les années folles. Donc, 2 ans de la guerre de 1918 s'est terminée, avec l'armistice de 1918. Mais la guerre continue à l'Est. On a une révolution bolchévique en 1917, qui a amené d'ailleurs l'Allemagne à signer une paix séparée avec la Russie, qui a permis de renforcer ses troupes à l'Ouest. Une paix séparée avec la Turquie, donc l'Empire ottoman. Mais dans le même temps, évidemment, des armées blanches se sont soulevées contre les bolcheviques. Il y a une guerre civile qui va durer jusqu'en 1921, qui est très sanglante, qui va faire des milliers de victimes, voire des dizaines de milliers de victimes, presque des millions de victimes. Une guerre sanglante avec la famine. Dans le Caucase, et surtout au Caucase, les trois républiques autonomes ont éclaté, c'est-à-dire elles sont les unes contre les autres. La Géorgie est occupée par les Anglais. L'Azerbaïdjan a été pris par les Soviétiques pour les pétroles de Bakou. Et enfin, l'Arménie est toujours confrontée à son ennemi militaire, donc la Turquie, puisque une Turquie nouvelle va émerger de l'Empire ottoman sous la direction de Mustafa Kemal. En même temps, la Perse est secouée par des soubresauts. Le Shah est menacé par des mouvements donc à la fois nationalistes, mais aussi des mouvements progressistes, pour ne pas dire révolutionnaires, dans le nord de l'Iran, lesquels, évidemment, sont manipulés par les soviétiques à cette époque. Donc c'est une région qui souffre énormément, et évidemment, un peu plus bas, avec le début du sionisme, c'est l'implantation des premières colonies, donc des premières colonies juives, qui sont financées par les banquiers comme Rothschild, qui achètent des terres en Palestine pour y implanter des colonies juives. Voilà un petit peu le contexte.
Alors, le héros principal s'appelle donc Tigrane de Langon. Est-ce que tu peux nous brosser son portrait rapidement? Dans quel contexte il est né? Parce qu'il a, voilà, il a déjà une vie bien remplie. Et quel est le contexte de l'histoire?
Alors Tigrane de Langon, c'est un métis. Il est né en Iran, à Tabriz, qui est une grande ville du nord de l'Iran. Son père russo-arménien, plutôt russe qu'arménien d'ailleurs. Et sa mère est irlandaise. Donc déjà, on a un personnage un peu métissé, avec des origines lointaines mongoles. Ce qui fait de lui un personnage un peu hors normes, et qui se trouve très mal à l'aise dans tous les milieux dans lesquels il est, puisqu'il n'est jamais accepté pour ce qu'il est réellement. Le hasard veut qu'il se retrouve héros malgré lui, lors d'un accrochage avec des troupes ennemies, et qu'il se bat une légende qui en fait de lui le diable de Sildir, qui est donc le sous-titre du livre, La forteresse perdue. Et entouré de cette légende qui a fait de lui un héros malgré lui, il se retrouve dans cette forteresse, au sud du Caucase, un peu las de la guerre, un peu fatigué de combattre, avec une préoccupation majeure, son fils aîné a disparu, il voudrait bien le retrouver. Donc ça, c'est le personnage, à mon avis, le personnage central, qui se pose des cas de conscience sur ce qu'il est, ce qu'il a fait, son devenir, ce qu'il doit faire en cas de danger pour ses hommes, puisqu'il est à la tête d'une troupe de mercenaires, et est-ce qu'il va pouvoir arriver à ses fins, et dans quel état va-t-il être à la fin du roman ? Ça, c'est toute l'intrigue, évidemment, de l'histoire.
Et puis donc arrive un premier meurtre, suivi d'un second, et donc il va devoir gérer cette crise.
Tout à fait, cette crise va être gérée par un de ses officiers, donc le colonel Minassian, qui est un ancien instituteur, qui lui va être chargé de l'enquête, et qui va essayer de démêler en fait tout un écheveau d'intrigues, savoir pourquoi cet homme, premier homme, a été tué, et pourquoi le deuxième homme a été tué, quel est le fil conducteur entre les deux. Évidemment, l'histoire explique pourquoi, et c'est tout l'intérêt de l'affaire. Il est opposé, entre guillemets, dans toute amitié, à un autre colonel, qui lui est d'origine juive, de Géorgie, donc le colonel Mikhaïlov, qui lui est un petit peu embêté, puisqu'il connaît un des protagonistes qui est soupçonné du crime, et qu'il ne croit pas sa culpabilité. Donc il y a en fait un jeu à trois, entre le prince et ses deux aides de camp, qui donne lieu à des scènes assez dures parfois, d'opposition, de style et d'opposition surtout de stratégie concernant l'avenir de la forteresse et de ses hommes.
Alors des scènes un petit peu dures, mais aussi des scènes tout en douceur, parce qu'il y a aussi quelques femmes dans l'histoire.
Il y a quelques femmes, il y en a trois majeures, je dirais. L'une qui est liée au prince par le sang, l'autre qui est liée évidemment à Boris, puisque c'est sa sœur, Véronica, et la troisième qui est la pupille du prince, qui est une infirmière, qui, elle, est le témoin d'événements dont le lecteur aura le plaisir et la surprise d'y croire dans le livre.
Très bien, donc à la fois des histoires d'amour, des histoires de famille, et des histoires historiques, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est dans un contexte réel, ce sont des personnages fictifs, certains qui ont réellement existé, mais dont tu as changé les noms volontairement, et puis donc tout ce contexte qui donne toute la saveur à ton livre.
Tout à fait, on a bien sûr des personnages qui ont existé, il y a le fameux Beria, le chef de la police secrète de Staline, qui à l'époque était sous-directeur de la police secrète en Azerbaïdjan, qui a réellement existé, j'ai trouvé donc des documents qui attestent sa présence, j'ai trouvé aussi des documents photographiques pour faire une description assez simple, il fallait quand même être proche de la réalité. Il y a des généraux arméniens qui ont existé, comme Dro et Netch, qui sont des personnages réels, mais j'ai changé le nom de ministre de la Défense de l'époque pour des raisons... je dirais, un peu pratique, pour ne pas offenser les descendants, si ces descendants se reconnaissaient dans le personnage. Donc évidemment, il y a à propos de rechercher des faits réels, de mélanger de la fiction. Le prince de l'Ombron existait, mais il y a longtemps que la branche a été éteinte, puisqu'elle s'est éteinte, je crois, au XIVe ou XVe siècle. Donc j'ai repris un nom qui existe, et j'en ai fait un prince imaginaire, qui a pu exister, peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais. Et puis, il y a quand même le problème des Kurdes qui est abordé, puisqu'un des personnages est kurde, c'est un capitaine, qui, lui, va mettre en avant toute l'actualité, en fait, que vit cette région aujourd'hui, puisque ce qui s'est passé en 1920, nous l'avons vécu en 2015 avec Daesh, qui s'est attaqué aux Kurdes, qui s'est attaqué aux chiites, qui s'est attaqué aux chrétiens d'Orient, qu'on oublie beaucoup, les Assyro-Chaldéens. On parle évidemment du génocide de 1915, qui est dans les mémoires de beaucoup de gens, même en France, puisque le gouvernement français a déclaré le 24 avril comme journée officielle de commémoration du génocide de 1915, arménien, assyro-chaldéen et grec pontique. Donc évidemment, on aborde ces questions-là, qui ne sont pas du tout réglées aujourd'hui, et on voit malheureusement le résultat à l'heure actuelle avec le flux des migrants de Syrie, d'Irak, d'Iran vers l'Europe.
Et donc ton livre est scindé en deux parties, je crois. La première partie, donc La forteresse perdue, Le diable de Sildir, donc qui vient de paraître. Une partie de l'intrigue est résolue, mais ça donne la porte ouverte à une autre partie de l'intrigue. Donc on parlait du père qui recherche son fils et du fils qui recherche son père. Et donc je suppose que c'est la deuxième partie qui donnera la solution à cette énigme.
Tout à fait. C'est un choix éditorial, c'est pas mon choix personnel. À la base, moi j'écris un seul roman d'un seul tenant. mais l'éditeur a vu qu'il était un petit peu trop lourd à digérer pour un lecteur, ce qu'on peut tout à fait. Quand on s'appelle Ken Follett, on peut écrire Les Piles de la Terre en 1200 pages. Quand on s'appelle Escadurman, qu'on est un complet inconnu du monde littéraire, sortir 850 pages, c'est un peu audacieux. Donc il est estimé que, techniquement parlant, de manière marketing, il fallait couper l'histoire en deux. Étonnamment, ça se coupe en deux. J'avais donc 52 chapitres.
C'est plutôt bien, effectivement.
Et des 52 chapitres, il y en a 26 pour le premier tome et 26 pour le second. Je n'ai pas fait exprès. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'en fait, le premier tome est plutôt axé sur le père, le deuxième est plutôt axé sur le fils, puisqu'on commence avec le fils, enfin, j'en dis pas plus. Et le titre est déjà trouvé, le tome est déjà écrit, donc on ne va pas l'attendre longtemps, il est sur l'ordinateur actuellement. Il est en relecture, parce qu'il faut vraiment relire beaucoup. C'est long, c'est dur à lire à l'écran, et évidemment, je le regarde fréquemment, je retouche des petites choses. L'autre chose qu'on a faite pour faciliter la lecture dans le premier tome, c'est de mettre des cartes géographiques ou des cartes historiques pour faciliter, je dirais, localisation pour les lecteurs, puisqu'on est dans des lieux avec des noms étrangers, pour pas dire étranges, donc il faut que les lecteurs puissent se situer. Deuxième partie, on reprendra la liste des personnages pour que le lecteur puisse se remémorer. Évidemment, on m'a demandé également les sources, puisque certains lecteurs m'ont dit « Mais où as-tu trouvé les sources pour écrire cette histoire-là » Et donc, j'ai essayé de trouver principalement les sources qu'on peut retrouver sur Internet ou racheter, évidemment, dans le livre. Certains livres que j'utilise sont très très vieux, ils datent de 1930.
Alors, pour plus d'informations sur ce roman, rendez-vous sur la page internet de l'éditeur ID France Loire, également librairie sur commande via Dilicom et sur le site de Cité Radio où nous retrouverons toutes ces coordonnées. Serge, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt pour la suite de ton roman et à très bientôt en Touraine.
Merci Ligueia et au plaisir de cette interview.
Cité Radio.